Eh bien oui, si vous ne le saviez pas, vous êtes en train d'écouter Delirium Environnemental. On vous parle d'environnement, les nouvelles, notre sélection de nouvelles de la semaine, ce qu'on juge le plus important de vous parler. On a fait un gros bloc énergie, transport, Kyoto. On va changer un petit peu de sujet pour se diriger peut-être vers l'eau, parce qu'il y a également d'autres sujets qui sont importants. Et l'eau en est un, ma foi, essentiel.
Vital.
Oui.
Je vais essayer d'être clair parce que c'est un sujet qui est un peu comme celui des échanges de carbone, assez complexe en lui-même. Il existe un bassin versant en Amérique du Nord qui s'appelle les Grands Lacs. Hey. Tout le monde le suit jusqu'à présent. Eh bien, cette eau-là représente une des plus importantes réserves d'eau douce sur la planète. D'eau douce à l'état liquide, parce qu'on sait que la majorité
l'eau
de
douce.
L'eau douce, non, pas l'eau, l'eau douce, mais l'eau douce, est dans la calotte glaciaire. Donc, l'eau des Grands Lacs est une eau douce sous forme liquide, est un des principaux réservoirs sur la planète. Cette eau-là est à la moitié aux États-Unis, à moitié au Canada, donc représente une espèce d'enjeu politique très important. Et il existe au Canada et aux États-Unis un groupe qui s'appelle le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs, qui est constitué des 8 gouverneurs des États états-uniens qui bordent des Grands Lacs et des premiers ministres ontariens et québécois. Et en 2001, à la suite d'un sommet sur les Grands Lacs, avait été signée une annexe à la Charte des Grands Lacs au sujet de toutes les questions d'exportation d'eau. Et présentement, à Chicago, dans le fond, la semaine dernière, ça finissait en fin de semaine, avait lieu une renégociation au sujet de cette annexe-là. Et cette annexe-là est sans doute un dossier qu'il faudra suivre de manière assidue au cours des prochaines années, parce qu'on sait que la pression sur les Grands Lacs va devenir, avec les années, de plus en plus importante.
Je m'explique. La pression économique?
La pression
atmosphérique?
Mais surtout la pression états-unienne. Qui est crue, hein? C'est encore une fois.
Tu m'étonnes.
Eh bien oui, vous savez que les États-Unis sont au sud du Canada, je vous apprends encore une fois rien là-dessus, et qu'il fait plus chaud, qu'il fait plus sec, qu'ils ont moins d'eau et qu'ils en veulent.
Et qu'ils jouent plus au golf que nous.
Donc, toute la partie du Midwest américain, donc des États qui couvrent le centre des États-Unis jusqu'à même Denver, le Colorado, Las Vegas, qui sont pratiquement en milieu désertique, eh bien, ont un goût incroyablement prononcé vers l'eau des Grands Lacs. Ils la veulent. Et présentement, la renégociation de cette annexe-là dans la Charte des Grands Lacs, eh bien, laisse peut-être la porte un petit peu trop ouverte à d'éventuels transport, exportation d'eau en quantité. Dans un autre traité, qui est celui du traité des eaux limitrophes de la Commission mixte internationale, qui est dans le fond un organisme paragouvernemental qui gère les questions d'eau limitrophes, eh bien, on a un énoncé qui est très clair, qui interdit toute prise d'eau qui sort l'eau du bassin. Donc, si on prend de l'eau dans une ville, il faut que l'eau revienne dans le bassin. Mais là,
dans le bassin versant.
Dans le bassin versant, donc, qui revienne au Grand Lac. Eh bien, là, dans les travaux qu'on fait présentement, eh bien, c'est plus aussi clair et on laisse la porte ouverte à sortir de l'eau des bassins. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que par exemple, on va prendre un des États qui est concerné, le Wisconsin. Eh bien, ce n'est pas tout le Wisconsin qui est dans le bassin versant des Grands Lacs. Donc, le gouverneur de cet État-là, lui, veut laisser la porte ouverte pour une ville qui est dans son État, mais qui n'est pas dans le bassin des Grands Lacs, pour qu'elle puisse aller y prendre de l'eau. Et là, on ouvre la porte vers des exportations d'eau. Un autre cas intéressant, c'est à Chicago. Ceux qui ne le savent pas, à Chicago, il y a un canal qui rejoint le Mississippi au lac Michigan. Eh bien, ce canal-là, si on le laisse ouvert à longueur d'année, à façon maximum, c'est 15 cm d'eau qui diminue au niveau des Grands Lacs. Et 15 cm d'eau au niveau des Grands Lacs, c'est plusieurs pieds pour le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un enjeu qui nous touche directement. Quoique le Québec, on est là un peu par défaut parce qu'on n'est pas un État riverain des Grands Lacs.
Mais là, c'est quoi la position du Canada là-dedans?
Eh bien, la position du Canada, c'est pour une fois pas fait attendre. Stéphane Dion, son homologue ontarien, et je pense même pas que Mulcair s'est mêlé à ça. C'est un sous attaché de presse qui a dû se manifester parce que là c'est la 25 qui prend toute l'attention, mais a trouvé cette situation-là particulièrement préoccupante. Le Canada, par la voix de M. Dion, demande d'avoir un énoncé beaucoup plus explicite qui protège toute ponction de l'eau, mais on sait que présentement l'attrait que représente l'eau douce des Grands Lacs pour les États du Midwest américain est très fort. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que M. Dion a profité de l'occasion pour faire une déclaration totalement gratuite et dire que certains États du Midwest américain sont en train de préparer un complot. Il a vraiment utilisé des termes là qui étaient un peu tirés des films de science-fiction. Mais bref, il y a une magouille qui se prépare aux États-Unis pour aller prendre de l'eau des Grands Lacs et l'amener dans l'Ouest américain.
Ben, science-fiction, mais souvent la réalité ressemble à la science-fiction.
Loin, hein?
Dans le même ordre d'idée, je vous inviterai peut-être à aller visiter simplement le site d'Eau Secours, www.eausecours.org. Vous allez trouver ça sur notre site internet de toute façon, parce qu'il y a une conférence la semaine prochaine de Raoul Duguay, soit mardi soir le 25 janvier à la Petite Marche. Et le thème de la conférence, c'est l'eau, essence de la vie. Donc, probablement que c'est un des thèmes qui risque d'être abordé lors de cette conférence. L'eau, problématique mondiale, s'il en est une, je vous rappelle juste rapidement qu'il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, oui, il faut se préoccuper, il faut faire attention à cette ressource. Nicolas Mainville, tu veux réenchérir?
J'ai un questionnement. Est-ce que les États-Unis vont s'empêcher ou respecter ces règles-là pour longtemps, ou ils vont juste se tanner à un moment donné et vont dire, écoutez, on la prend, cette eau-là?
Je crois que ce type de questionnement-là, présentement, regardez, si on regarde l'attitude des États-Unis face à un peu n'importe quel conflit ou contexte où ils peuvent intervenir dans le monde, demandent rarement la permission à quelqu'un pour agir. Mm. C'est le cas en Irak, puis c'est le cas le plus frappant. L'attitude du Canada, présentement, je crois que quand on regarde le bouclier antimissile, on regarde le cas de l'eau, on est souvent un peu le chien de poche. Donc, présentement, c'est de la spéculation. J'espère que le Canada saura faire reconnaître sa souveraineté sur son eau. Mais c'est encore des débats qui vont durer, mon Dieu, et qui vont, j'espère, ne pas aboutir à d'actions concrètes.
C'est à suivre comme histoire et soyez certains qu'on va jeter un coup d'œil là-dessus. Peut-être juste vérifier un petit peu ce qui se passe à La Paz, en Bolivie, parce que justement, on parle de l'eau. Plusieurs personnes veulent s'approprier cette eau-là, entre autres des multinationales. Et semble-t-il qu'ils ont réussi à sortir les multinationales de la gestion de l'eau là-bas. Et je vous rappelle que c'est quelque chose qui guette le Québec en tout temps avec les dernières déclarations que nous avons eues de notre ministre de l'Environnement.
Eh bien oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de la Lyonnaise des eaux. C'est une des plus grandes multinationales, eh bien, qui joue avec l'eau autour de la planète. Eh bien, en Amérique du Sud, pour la deuxième fois dans la dernière année, on a le cas où une population s'est manifestée et a réussi à sortir l'entreprise privée de la gestion de l'eau. C'est dans la ville de El Alto, une ville de 800 000 habitants, où est-ce qu'on a déclenché une grève généralisée. Donc, ce n'est pas les ouvriers d'une ou plusieurs manufactures, mais c'est la population qui se met en grève et qui a fait la grève afin de sortir cette compagnie-là. L'État a décidé effectivement de cesser le contrat avec la Lyonnaise des eaux. Donc c'est une victoire vraiment du peuple bolivien à ce niveau-là. Et une autre organisation est en train de se monter au niveau de la société d'électricité Electropaz, dans le fond, qui est une filiale locale de Telecom Italia, où est-ce qu'on veut sortir le privé de la gestion de l'électricité pour une petite, pour une petite municipalité, où est-ce qu'on se fait enterrer en dessous de tarifs qui sont complètement exorbitants.
Il y a de l'espoir.
Bonjour. Mon nom est Bill Ford, arrière petit-fils de Henry Ford et président de la Ford Motor Company. Ford veut devenir une entreprise verte. En 2005, on va faire 20 000 véhicules sport utilitaires hybrides, soit 6 dixièmes de 1% de tous nos véhicules. Et wow! Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Agence de protection environnementale des États-Unis nous a classé le pire constructeur automobile en matière de consommation d'essence, et ce depuis 2000. Depuis 5 ans, on est donc classé le pire des constructeurs automobiles, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir, on veut devenir vert, mais il y a du chemin à faire avant de devenir vert. Ford. On peut pas faire pire. Merci. Beaucoup.
Ford Mustang. On embrasse les platanes à gauche. Watch it.
Eh bien, on salue nos amis de Ford, qui, je vous le rappelle, aux États-Unis, pour les 5 dernières années, ont fait pire constructeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de sa flotte automobile. Vous les saluerez encore une fois au salon de l'auto si jamais vous allez réclamer plus d'hybrides. Eh bien, la technologie, c'est pas juste dans les automobiles, c'est également au sein de la production d'électricité. On a une nouvelle vraiment encourageante qui nous vient directement de Toronto. Ma foi, il y a des choses qui se passent d'excitantes à Toronto, je suis surpris. Nicolas Mainville, parle-moi-en.
Fait Patrick.
Ah, je suis dur.
Ben oui, il y a des chercheurs qui ont en fait inventé un matériau sensible à l'infrarouge, imaginez-vous donc. Un matériel qui va être capable de capter les infrarouges et en fait servir de cellules photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique, imaginez-vous. Donc on va être capable maintenant, dorénavant, avec cette nouvelle invention, de se créer des chandails, des tuques, des mitaines, des peintures, des tapisseries qui transforment l'énergie solaire en énergie électrique.
Wow, mais...
Ça, c'est pas le futur, c'est le présent. Et c'est des chercheurs de l'Université de Toronto qui ont inventé ça. En fait, c'est vraiment une grosse percée qui va probablement avoir des découlés. Malgré que je ne suis pas un fervent amateur des solutions technologiques, quand on voit que cette nouvelle invention augmente l'efficacité de transfert d'énergie solaire jusqu'à l'énergie électrique jusqu'à 30%, c'est extrêmement intéressant de voir ça, puisqu'on sait que déjà les cellules voltaïques qui existent en ce moment, sont pas super efficaces pour transformer l'énergie. Donc, on augmente cette efficacité-là, et puis on diminue aussi par le fait même la pollution que ça prend pour produire ces cellules voltaïques-là. Donc, une très bonne nouvelle qu'on salue bien haut, et on encourage les gens de l'Université de Toronto à continuer à faire des belles recherches.
On encourage également les hauts dirigeants du Québec à voir un petit peu les autres solutions qui existent pour produire de l'électricité. Il n'y a pas juste des barrages et des centrales thermiques au gaz naturel. Excusez, il fallait que je la dise. Mais parlant de technologie, il y a quelque chose parfois d'épeurant, parfois en fait, oui, cette nouvelle me semble épeurante. On parle de biotechnologie maintenant et des OGM, les organismes génétiquement modifiés qui pullulent, ma foi, mais c'est pire que des lapins, cette histoire-là.
Ça pullule. C'est une étude, je vais essayer de le traduire en français parce que le nom en anglais va être vraiment trop long à vous dire, c'est le Service international pour l'acquisition de données relatives à l'application des technologies biotechnologie dans l'agriculture. Oh. Le nom en anglais était aussi long, donc je me suis permis de le traduire. C'est une organisation qui est entre autres appuyée par les Monsanto, Pioneer, Syngenta de ce monde, donc ceux qui ont un intérêt dans le biotech et dans la culture de substances génétiquement modifiées. Eh bien, ce qu'ils nous disent, c'est sûr qu'il faut relativiser ces propos-là, parce qu'on ne sait pas, est-ce que les autres veulent avoir des chiffres très optimistes pour montrer à quel point la culture OGM se répand bien et qu'elle est importante, ou au contraire, veulent-ils jouer avec les chiffres dans un autre sens? On ne le sait pas, mais nous, on va croire que c'est cette option-là qui prédomine. Eh bien, ils nous disent qu'en 2004, une croissance de 20% à travers le monde a été observée quant à l'utilisation d'OGM. 81 millions d'hectares ont été cultivés dans le monde de substances génétiquement modifiées. C'est 8,25 millions d'agriculteurs dans 17 pays qui ont eu recours aux biotechnologies. Et là, on dit que 90% de ces producteurs viennent de pays en voie de développement, ce qui est normal parce que dans les pays développés, on a tout écrasé nos petits agriculteurs, donc il y a juste des multinationales qui font de l'argent. Mais, donc, des chiffres qui sont très tristes quand on sait qu'on est en plein débat quant à la réelle innocuité des OGM, quand on parle du principe de précaution qu'il faudrait, avant de cultiver en masse ces produits-là, mais s'assurer qu'ils ne seront pas nocifs pour la santé, pour l'environnement et pour les populations qui les cultivent aussi. Et quand on voit des propos, M. Clive James, qui est le réalisateur de cette étude-là, qui nous dit que l'adoption rapide et continue des biotechnologies, en particulier par les petits agriculteurs à faible revenu, reflète les bienfaits économiques, environnementaux, sanitaires et sociaux pour les cultivateurs et la société dans les pays développés et en voie de développement. On voit qu'il y a un lavage de cerveau, mais combien intense qu'on veut nous faire aussi passer par ce type d'études-là. Si vous voulez encore une fois des chiffres, il y en a. C'est un article
c'est la
dans
même
le
chose
Devoir
au Québec,
cette semaine.
La tendance.
Et au Canada, vous voyez, c'est une hausse de 23% par rapport à 2003. 5,4 millions d'hectares. Le Canada est un des quatre pays développés dans les 17 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là en compagnie des États-Unis, qui bien sûr figure seul en tête avec 59% d'utilisation de substances génétiquement modifiées. C'est triste.
Que j'aime ce pays des fois.
Mais attends un peu, il y a de l'espoir. Avez-vous entendu parler de l'île du Prince-Édouard?
C'est au Canada.
Il y avait de la patate, mais il y a aussi des négociations en ce moment. En fait, il y a une grosse commission sur l'agriculture, la foresterie et l'environnement qui est en train de se mettre en branle. Et puis, il y a des négociations et des consultations, à savoir, en fait, consultations publiques sur la possibilité de proclamer cette province zone sans OGM. Et oui, mesdames et messieurs, des négociations en ce moment. En fait, il y a des grosses pressions, autant du point de vu des groupes environnementaux et anti-OGM que du gros lobby biotechnologique à savoir, est-ce que ces consultations-là vont mener à une zone sans OGM ou si ça passera pas? Eh bien, c'est en branle en ce moment. On va suivre le dossier pour vous.
On se rappelle qu'en décembre dernier, le congrès de l'Union des producteurs agricoles du Québec avançait la même idée de faire du Québec une zone sans OGM. Je pense qu'avec les chiffres qu'on vient d'avoir dans une étude-là, c'est là qu'il faut qu'on prenne ce genre de décision-là parce que dans 5 ans, il va être vraiment trop tard.
Mm-hmm. Point de non-retour qu'on appelle. Eh bien, nous, on revient après une petite pause parce qu'il y a plein d'autres nouvelles qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Il va falloir les traiter en bref.
Vite!
OK, comme je vous disais il y a de cela quelques instants, il y a beaucoup de nouvelles dans le monde de l'environnement. Allez voir sur notre site web radiodelirium.net, vous allez tous les voir parce qu'elles s'en viennent de façon assez rapide en rafale, on appelle ça en bref, pêle-mêle, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de vous dire.
Eh bien, moi, je commence avec un petit dossier qui se fait parallèlement aux causes environnementales, mais qui aura sans doute une importance très importante. C'est gros de dire, une importance qui est importante. On est en train de remettre en cause la constitutionnalité de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Il y a, bon, au niveau, c'est Post-Canada, mais qui fait une requête à la Cour ontarienne pour mettre le chapitre 11 de l'ALENA hors constitution, donc qu'il ne soit plus utilisé par les industries pour, entre autres, garantir un libre accès à la production et le libre recours à la poursuite judiciaire contre les pouvoirs publics qui enfreindraient ce droit-là à produire. Donc, si cette cause-là est entendue et jugée positive, c'est-à-dire que le chapitre 11 est inconstitutionnel, bien pour l'environnement, ce serait une avancée très intéressante.
Wow! Hey, je m'en vais dans l'international, juste pour changer de sujet un petit peu. Vous savez, l'Italie est aux prises avec des problèmes de qualité de l'air affreux. Et puis, ils ont proposé un nouveau plan, Rome et Milan, en premier tête de la liste, ça se dit pas, en tête de liste,
ça se comprend.
Qui ont décidé de carrément interdire la circulation automobile les dimanches. Donc, à Rome et à Milan, vous pouvez plus vous promener en char, à moins que vous ayez un ticket pour aller voir la game de football au stade. Et ce n'est pas une blague, mesdames et messieurs.
Ou à moins que vous appeliez Monsieur Ferrari et que vous alliez voir le pape. J'ai pas compris pourquoi ils sont allés voir. Mais en tout cas, hey, j'en ai une petite bite pour vous. Quel lien faites-vous entre Stéphane Dion et Arnold Schwarzenegger?
La musculature.
Exactement. Et si je rajoute Jean Lapierre dans cette histoire?
La moustache.
L'absence de moustache.
Vous me confondez tous. Eh bien non, ils se rencontreront en Californie pour parler de normes obligatoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Provenant de l'industrie automobile, on sait que la Californie a passé une loi de diminution de 25% d'ici 2009. On espère que M. Dion va s'amuser avec M. Schwarzenegger.
Mais parlant des grosses négociations pour inciter les gens à polluer moins avec leur char, eh bien l'Angleterre, il va de l'avant avec un plan assez audacieux. Redonner 1000 livres, en fait 2 200 $ directement dans les poches de la personne qui va s'acheter un char vert, c'est-à-dire une automobile qui pollue très peu. Intéressant comme plan, et c'est déjà mis en application, évidemment pour combattre cet avènement des SUV, donc les 4x4 utilitaires sport.
Et bien pendant qu'à l'étranger on essaie de réduire l'utilisation de l'automobile, et bien ici on fait le contraire. Vous savez qu'il y a un projet d'agrandissement de la route 175 entre le lac Saint-Jean et Québec, une belle autoroute à 4 voies, encore une belle autoroute, et bien le conseil municipal de la ville de Saguenay a demandé au ministre Thomas Mulcair, ministre de l'Environnement, de ne pas tenir d'audience publique par le BAP, même si on demandait, et on sait qu'il y a déjà 30 demandes pour une audience du Bureau d'audience publique en environnement.
Eh bien, j'envoie un blâme à ce monsieur, ça n'a pas de classe.
C'est un monsieur qui s'appelle un conseil.
Monsieur conseil.
Bien plus important.
Allez,
je m'en vais encore à l'international. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Association internationale des scientifiques du monde tropical. Eh bien, ils ont fait une espèce de grosse coalition pour appeler solennellement les gouverneurs internationaux à mettre un thème à l'orpaillage illégal. Vous savez que l'orpaillage, qui est l'extraction de l'or, est une activité extrêmement polluante et c'est en train de causer des gros dommages dans le monde tropical, notamment point de vue contamination au mercure, mais aussi érosion des berges et tous les procédés qui impliquent l'extraction de l'or comme tel. Donc, grosse coalition qui s'est formée. Si ça vous intéresse, allez voir ça sur Internet. On va mettre ça sur notre site Internet.
Eh bien, moi, je vous amène peut-être plus longuement que brièvement sur un dossier qu'on n'a malheureusement pas assez le temps de traiter à chaque semaine, et c'est celui du Mont Orford. Vous savez qu'au Mont Orford se tient présentement, mais c'est pas au Mont Orford, mais relativement au Mont Orford, se tient une audience publique du BAP, à savoir s'il serait possible d'échanger certains territoires qui sont présentement protégés par un parc provincial, le parc du Mont Orford, à un promoteur immobilier qui, lui, veut construire des condos en bas des pistes de ski. Eh bien, le président de la Chambre de commerce de l'industrie de Magog-Orford, lui, eh bien, voudrait voir le milieu des affaires déposer de 1000 à 1200 mémoires. On sait que c'est quelque chose, il n'y a jamais une quantité aussi impressionnante de mémoires, pratiquement, qui se déposent lors d'une audience du BAP. Eh bien, pour montrer que les gens sont pour le développement. Eh bien, messieurs, messieurs, dames, je vous implore de penser à si, à la question suivante, si on est toujours en train de redéfinir les décisions politiques et juridiques que l'on prend. On sait qu'il y a une décision qui a été prise de protéger un territoire. Présentement, ce qu'on demande, c'est de contrevenir à la décision qui a été prise jadis. Si on ouvre la porte à de telles décisions, bien, c'est pas uniquement les environnementalistes ou les écologistes de ce monde qui vont être touchés, mais c'est vous aussi. Donc, dans cet ordre d'idée-là, je vous demanderais de reconcevoir votre position et de simplement admettre que des décisions passées ont été prises dans le sens du bien commun et non pas de votre bien personnel.
Alors, à tous les gens d'Offer, j'espère que le message est passé. Et surtout, rappelez-vous qu'on n'a même pas 5% d'air protégé légalement. En fait, on a 3% du territoire québécois qui est non accessible à l'exploitation industrielle. Et puis, qu'on tarde vraiment là, de façon absurde.
Ben, en fait, selon la stratégie, ça va arriver en 2007, c'est 8% d'air protégé au Québec. On l'attend toujours. Ben, M. Mulcair, ministre de l'Environnement du Québec, est parti pour sa tournée sur le développement durable. Vous avez vu les belles affirmations en l'hiver passé, en fait, avant Noël. Eh bien là, c'est officiel, allez voir. En fait, on va encore une fois mettre le lien sur notre site Internet, parce que c'est important, ne serait-ce que de vous présenter dans la salle pour voir qui est votre ministre de l'Environnement et écouter notre émission et aller lui répéter des fois ce qu'on dit, parce qu'on a l'impression que ça se rend pas, même si on a une ligne directement connectée sur son bureau.
Eh bien, une bonne nouvelle, Toronto lance un appel d'offres pour se doter d'une technique qui permettrait de trier et de composter les déchets putrescibles qui se retrouvent malgré tout dans les sacs verts. C'est une super bonne idée. On sait que Toronto...
L'ensemble des déchets,
donc les trier une deuxième fois, dans le fond, après qu'ils aient été jetés par les consommateurs. On se rappelle que c'est 1 million de tonnes d'ordures torontoises qui se rendent chaque année dans l'État du Michigan.
Bon, ben écoutez, malheureusement, c'est pas mal tout le temps qu'on a pour les brèves. Eh bien, je vous invite à revenir après cette courte pause parce qu'on a un dossier super important à traiter. On a deux gens qui viennent nous parler justement d'un livre qui va sortir sur l'eau embouteillée, cette industrie. Ma foi, on pourrait la considérer comme crasseuse. Eh bien oui, crasseuse, l'eau embouteillée. Revenez après la pause, vous allez tout comprendre.
Empilés, bon gré mal gré, chacun sur l'autre. L'odeur qui s'en dégage, ma foi, écœure ce qui y passe. Mais moi, j'y reste depuis longtemps, je m'y suis bien habitué. On dit que certains s'y détestent, on dit que d'autres s'y aiment aussi. Si vous m'aviez demandé pour ma part, j'aurais dit que l'ignorance d'autrui qui y prévaut empêche la collision de tant d'ego. Tel est le lot de l'indifférence, métropole de la condescendance. Maintenant que la paix est assurée, je peux marcher bon an mal an, en craignant qu'une minorité de délinquants et les agents de la paix seront usés de leur mépris subtilement pour rappeler alors les derniers sacripants inconscients. On dit que certains récalcitrent, on dit que d'autres comprennent très vite. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais répondu de suite que taper trop fort sur des têtes chauffées atrophie dangereusement leur bonne idée. Tel est le lot de l'abus de pouvoir, métropole de la force dérisoire. Dans ma belle société de rêve, chacun y cherchait cela sans trêve. Un but, une utopie perdue pour oublier qu'on est cocu, porté au nu, roulé par terre, cocu de la vie, cocu d'un père, ou bien l'auriez-vous cru, cocu d'un cul. On dit que certains se masturbent, on dit que d'autres prennent dans les clubs. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais tout expliqué. C'est comme les yeux dans notre pantalon se dresse l'instrument de nos motivations. Et c'est que mesdames, sous votre chemisier, se trouvent les atouts pour nous faire marcher. Tel est le lot de la nation, métropole de la perversion. Maintenant que l'on sait qui court, pour qui court, pourquoi, il ne reste plus qu'à se demander comment tout cela est arrivé. Hey, comment une espèce qui va contre elle-même et qui pollue son eau, son air, a pu survivre à la traversée du désert. On dit que certains recherchent la vérité, que d'autres n'y trouvent que des faussetés. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais déclaré qu'expliquer cette réalité d'enfer est aussi simple que de garder les deux pieds sur mer. Tel est le lot des questionnements, métropole du jamais content. Jamais content de la réponse. Bien sûr. Pour oublier cette réalité, qu'il y a la douceur du foyer, sortir de la torpeur en s'enfermant à double peine. Mais dans la métropole de l'abandon, il n'y a pas de condition du même nom. On possède tous un ami. Chère télévision, on dit que certains ne regardent que des feuilletons, les autres bulletins d'information. Faites-toi de me quémander, ne me resterai pas fait bouger. C'est que le soir, écoutez le film de minuit. M'empêche de me sentir trop seul dans mon lit. Tel est le lot de la multitude, métropole de la solitude. Dès que le soir, écoutez le film de minuit, m'empêche de faire des pipi dans mon lit. Qui ne rêvait pas trop à cette démence, car demain la course à l'impossible recommence.